Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Ise Tsikar et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Suite et fin de notre série consacrée au pouvoir en économie. Aujourd'hui, c'est la discipline économique et l'influence qu'elle exerce dans notre société qui vont nous intéresser. Rien n'est impossible dans une science aussi inexacte que l'économie, déclaré avec humour Paul Samuelson, prix Nobel d'économie en 1970. Il faut dire que le débat fait rage entre les partisans de l'efficience des marchés, qui voient l'économie comme une science dure, et les défenseurs d'une plus grande intervention de l'État, pour qui la discipline est avant tout une science sociale et morale. Une bataille théorique, idéologique, qui est aussi une bataille d'influence, à l'heure où les experts de l'économie se multiplient sur les plateaux télé et où leurs discours continuent à orienter les politiques publiques. Alors l'économie est-elle une science d'autorité ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons tenter de débroussailler les différentes écoles de pensée économique en compagnie d'Agnès Labrousse, maître de conférence à l'université de Picardie, co-auteur de l'ouvrage « À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?» publié au Lien qui libère, en compagnie également de Bernard Guérien, maître de conférence à l'université Paris 1, auteur de « L'illusion économique » publié aux éditions Omniscience. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour Agnès Labrousse et Bernard Guérien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'économie est-elle une science ? C'est ce que l'on va tenter de déterminer au cours de cette émission. Et d'abord ce qu'il faut souligner, c'est que l'on parle communément de science économique. C'est déjà une forme d'adoubement, Bernard Guérien ?
Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut parler de science ou des masses scientifiques ? A priori, oui, parce que ce que cherchent les économistes, c'est des régularités, comme le font dans les autres sciences. On essaye de voir s'il existe des régularités. À partir de là, on essaie d'élaborer des petites théories. Et puis, en économie, on utilise beaucoup les statistiques. N'est-ce pas ? C'est surtout l'expérimentation, c'est beaucoup plus difficile. Et on dispose beaucoup de statistiques. On essaie de voir s'il y a des tendances, des corrélations, etc. Donc cette démarche-là est une démarche qu'on peut qualifier de scientifique.
Et alors l'enjeu, c'est peut-être de voir si c'est une science dure ou une science molle. L'économie, en tout cas, cherche parfois à revendiquer ce statut de science dure. Quel est l'enjeu, Agnès Labrousse ?
Alors oui, effectivement, hein, il y a eu dans une grande partie de l'économie, pas la totalité de l'économie, il y a eu la volonté dès le 19e, hein, grosso modo la deuxième moitié du 19e, même s'il y avait déjà des éléments auparavant, de faire de l'économie une science, d'abord au même titre que la mécanique. Donc une des premières sources d'inspiration de ce qu'on appelle l'économie néoclassique, ça a été la mécanique pure du début du 19e, celle d'avant la seconde loi de la thermodynamique. Donc ça a été très très structurant pour l'économie néoclassique. Et puis après il y a eu d'autres sources d'inspiration aussi en provenance d'autres sciences dures. On peut penser notamment à partir des années 50 à un auteur comme Debreu. Debreu va importer les mathématiques topologiques, qui sont des mathématiques de haut vol, hein, inspirées du groupe français de Bourbaki. Et il va essayer de faire une théorie pure des marchés. Et puis ensuite, il va y avoir encore une autre inspiration en provenance cette fois-ci plutôt de la médecine, même si on pourra en discuter, c'est plus compliqué que ça en pratique, qui va être celle des essais cliniques, les essais cliniques randomisés, donc l'idée d'une économie expérimentale.
Alors on va revenir sur ces différents types d'inspiration. Mais alors d'abord, comment est-ce qu'on cherche à faire accéder l'économie à ce statut de science dure ? Cela passe en grande partie par un plus grand recours aux mathématiques et notamment à la modélisation arithmétique, Bernard Guérien ?
Non. Non, je vous ai parlé de statistiques, c'est-à-dire on traite des données, etc. Après, il y a l'idée d'avoir un système d'ensemble, n'est-ce pas ? On part, par exemple, d'hypothèses de base. Alors, comme a dit ma camarade, il y a la théorie global de l'équilibre général qui est basé sur l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur l'individu et on va construire un système à partir des comportements individuels. Mais là, ça devient quelque chose qui est absolument déconnecté avec ce qu'on connaît et qui n'est pas testable, évidemment, empiriquement, même pas statistiquement, n'est-ce pas? C'est une construction, ça serait une espèce de théorie d'une économie qui serait idéale, n'est-ce pas? Un modèle qui serait à atteindre, mais qui est complètement, qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons.
Mais on cherche en tout cas des outils qui se rapprochent, comme le disait Agnès Laproust, le plus possible de ceux qui sont employés dans les sphères scientifiques, des outils porteurs de légitimité. Agnès Laproust.
Bon, je ne sais pas, mais c'est... Oui, c'est... Alors, le problème, c'est que souvent, on le fait de manière scientiste, c'est-à-dire c'est une imitation servile d'une image un petit peu fantasmée des sciences de la nature. Donc, c'est là qu'est le problème.
Ça passe par quoi, par exemple, Agnès Laproust? Comment est-ce que ça se manifeste?
Alors, par exemple, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on sait très bien, Walras savait très bien que sa théorie de l'équilibre général ne correspondait pas à la réalité, mais très rapidement, ça va devenir quelque chose de normatif. Donc, on a un modèle idéal en lequel on montre que les marchés sont efficients. La réalité ne correspond pas à ce modèle de concurrence parfaite, d'homo economicus, etc. Et donc, il faut que la réalité se rapproche au maximum du modèle. Donc, c'est la réalité qui a tort. Et ça, je pense que dans d'autres sciences, on ne considère pas que c'est la réalité qui a tort. On va adapter la théorie pour la rapprocher beaucoup plus de la réalité.
Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que les revues d'économie sont parmi celles qui produisent le plus d'articles purement théorique, Agnès Laproust, c'est aussi le fait que les mathématiques ont pris une place prépondérante dans les manuels d'économie.
Oui, alors peut-être une petite distinction, il y a deux modalités principales d'enrôlement des mathématiques en économie, mais qui doivent être distinguées. La première modalité, c'est une modélisation mathématique abstraite, dont il était question auparavant. Et la seconde modalité, c'est le recours à la quantification, statistique. Et il y a deux histoires complètement distinctes de ces modalités d'enrôlement des mathématiques dans la discipline. On y reviendra peut-être, je suis en train d'oublier l'essentiel de votre question au passage.
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette source de légitimité pour l'économie, elle va être trouvée, commencez à l'évoquer, dans les mathématiques pures qui vont se développer dans les années 50 jusqu'aux années 70-80.
Oui, et donc vous disiez qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'articles qui sont des articles purement abstraits, sans référence au réel. Alors ça, c'est en train d'évoluer, mais ça reste quand même une réalité, ça reste aussi une réalité par rapport à une grande partie de l'enseignement de l'économie. Alors ça, c'est par exemple ce que constatait Léontief à la fin des années 70, en regardant les articles de la American Economic Review, revue de référence par excellence. Alors il y a un tournant empirique aujourd'hui, donc les choses sont en train d'évoluer, et donc on peut aussi voir de plus en plus des travaux qui sont purement empiriques.
Alors tout à l'heure, Agnès Laproust citait Gérard Debreu, qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 1982 grâce à ses travaux sur les mathématiques topologiques. Est-ce qu'on peut dire que cette période, Bernard Guérien, c'est le règne des données, en quelque sorte?
Non, justement pas. Parce que Debreu n'a jamais regardé une donnée de sa vie. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'était, un mathématicien, comme vous dites. Il faut bien voir qu'il y a une espèce de truc bizarre en économie, c'est que il y a quelque part deux populations. Il y a la population des économistes comme Debreu, venus des mathématiques et qui font de la théorie très abstraite, tout ça complètement donc déconnecté.
Et puis c'est ensuite, des mathématiques très abstraites.
Voilà. Et je serais plus critiquel. Je pense que même son modèle, c'est même pas atteignable. C'est pas le modèle de Walras. Non. En fait, c'est le paradoxe de l'économie. C'est que le modèle des marchés, en réalité, si on le regarde structure mathématique, c'est un modèle centralisé et en fait de planification. D'ailleurs, l'idée derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui organise tout. Il y a un centre, c'est pas un commissaire-priseur. Donc ça, c'est le paradoxe. On peut pas même dire on va aller vers ça, parce que ça voudrait dire qu'on ferait de la planification. Et ça, c'est toujours l'ambiguïté des économistes. C'est qu'un économiste, il va jamais vous dire, un physicien va dire les choses sont comme ça. Un économiste dira les choses sont comme ça, mais il faut faire ça. Il faut toujours, il a ce côté-là. Bon, et donc après, alors ils ont deux casquettes souvent, pas de Breu, mais des gens comme Arrow, Stiglitz, vous avez entendu parler, ils ont la casquette purement théoricien, qui sert d'un point de vue académique, ça c'est très important, c'est que l'académie recrute là-dedans. Et après, ils ont un côté appliqué, eux. Mais alors, on peut complètement, Krugman, si vous avez parlé, aussi, on peut complètement séparer l'un de l'autre. Alors, les côtés appliqués, statistiques, la cuisine, ils peuvent dire des choses très intéressantes, mais il faut qu'ils aient cette espèce d'étiquette qu'ils maîtrisent bien, la théorie, etc., qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils font en pratique. Je pense que c'est très difficile à comprendre pour des gens qui sont pas économistes. C'est ça la caractéristique de ce monde-là.
Alors, il y a une... Agnès Labrousse, vous voulez réagir?
Oui, juste une petite incise à propos de Krugman. Il a écrit sur son blog du New York Times un petit article intitulé « Macroeconomic Madness », la folie macroéconomique. Et il explique que dans les années 80, pour être publié dans les bonnes revues et pour faire carrière, il était obligé, avec ses collègues, d'introduire toute une série d'éléments complètement fantaisistes et irréalistes sur les anticipations rationnelles, etc., pour pouvoir être publié. Donc ceci explique aussi ce que vient de raconter Bernard Guérien. L'économie telle qu'elle se fait au quotidien, elle se fait dans pour des revues, des institutions d'évaluation, ça s'inscrit dans des carrières, donc il y a toute une composante en fait sociologique de la discipline.
On va reparler de ces instances de légitimité, mais il y a une troisième phase qui va s'ouvrir, qui est celle de l'expérimentation. Je vous propose d'écouter justement l'économiste Pierre Cahuc.
Aujourd'hui, l'économie a la même démarche que d'autres disciplines scientifiques, la biologie, la médecine, qui consiste à finalement faire des expériences. Donc en médecine, si on veut savoir si un médicament est efficace, on donne le médicament à un groupe de patients et on donne un placebo à un autre groupe, à un groupe témoin, et regarde comment évolue l'état de santé de ces deux groupes. En économie, on fait la même chose maintenant, grâce à l'explosion des données. C'est assez récent, ça fait une vingtaine, trentaine d'années que ceci se développe. Et par exemple, pour regarder quel est l'effet du salaire minimum sur l'emploi, aux États-Unis, lorsque le salaire minimum augmente, il augmente dans certains États et pas dans d'autres. Donc on regarde comment évolue l'emploi de chaque côté de la frontière, du côté où le salaire minimum a augmenté, et de l'autre côté, où le salaire minimum n'a pas augmenté, en regardant l'évolution de l'emploi au cours du temps dans ces deux États, le long de la frontière, on est capable de déceler une relation de cause à effet entre l'augmentation du salaire minimum et l'emploi. Et on arrive à des surprises.
Voilà, on l'entend pour Pierre Cahuc, l'économie est devenue une science expérimentale au même titre que la médecine ou la biologie. Alors qu'est-ce que vous inspire ces propos, Agnès Labrousse?
Une petite remarque.
Bernard Guérien.
Oui, mais après tu lui laisses. Non, mais ce qu'il vient de dire, ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de la cuisine statistique. On va prendre des statistiques dans les États, on va regarder s'il y a des différents. C'est de la cuisine, c'est pas de la grande théorie. C'est chercher une espèce de régularité, vous voyez? C'est ça. Ça, c'est le côté cuisine. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à peu près sérieux, disons. Bon, alors je laisse Agnès sur le fond.
Oui, oui, oui. Alors, d'abord, Pierre Cahuc, dans cet extrait, il mélange deux choses. D'un côté, les essais cliniques randomisés, contrôlés.
Alors, et qu'est-ce de que l'autre... vous entendez par randomisé?
Alors, c'est des essais ou des expérimentations dans lesquelles on va avoir deux groupes statistiquement comparables. Le seul élément qui va les différencier, c'est que dans un groupe, on va administrer un traitement, on va intervenir d'une certaine manière, et dans l'autre groupe, en fait, qui est donc comparable, on ne va pas administrer de traitement.
C'est en cela qu'ils sont inspirés des traitements médicaux.
Voilà, même si en fait, il y avait des éléments antérieurs en sciences sociales, et notamment en psychologie, en sciences de l'éducation, etc., dès les années 1920. Mais évidemment, c'est plus légitime de se revendiquer de la médecine que de sciences sociales, comme les sciences de l'éducation et la psychologie. Alors là, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il amalgame deux choses qui sont déjà différentes. C'est-à-dire que quand il parle du salaire minimum qui va être appliqué dans tel état des États-Unis et pas dans tel autre, là, on est en présence de quasi-expérimentation parce que dans ces états, il peut se passer plein d'autres choses qui expliquent. Donc, il y a une première confusion, il y a un petit manque de rigueur là-dessus. Expérimentation et quasi-expérimentation ne sont pas la même chose. Et ensuite, il parle de preuves de causalité. Alors là, j'aimerais introduire une différence qui est faite sur les essais cliniques en médecine, justement. C'est-à-dire que une expérimentation, ça va permettre de tester l'efficacité ou la non-nocivité d'une molécule, d'un principe actif. Mais on ne sait pas quels sont les mécanismes causaux sous-jacents. Je vous donne un exemple. Hein, on sait que il y a des essais cliniques qui montrent que l'acupuncture réduit les vomissements post-opératoires. Mais on ne sait pas par quel mécanisme l'acupuncture agit. Donc, les mécanismes causaux, c'est les preuves de causalité. Donc là, il y a déjà une confusion qui est problématique.
Voilà, un simplisme. Et dans le cadre de l'économie, c'est peut-être une question d'interprétation ensuite, ces questions de causalité.
Et en plus, ce sont des questions d'interprétation, parce qu'une grande partie de ces mécanismes causaux sont de fait des boîtes noires pour les expérimentateurs. Et si on ne fait pas à côté, par exemple, des études qualitative pour voir ce qui se passe, enquêter sur les raisons des acteurs, etc. Par exemple, il va être très difficile de savoir quels sont les mécanismes causaux sous-jacents, sauf si c'est une causalité très très simple.
Il y a eu un effet de mode, Bernard-Guérien, avec le Nobel qui a été attribué en 2002 à Daniel Kahneman et Vernon Smith. On parle alors de tournant expérimental ?
Non. Pour finir un peu avec l'histoire de Cahuc, ce qui est intéressant, c'est que vous demandez à n'importe qui d'un exemple, et c'est toujours cet exemple d'expérience de salaire minimum. Mmh. On dirait que c'est la seule expérience. Moi, j'en ai jamais vu des dures données en exemple. Pas beaucoup d'autres. Hein. Et même avec, à ce ça marche, même avec tous les réserves qu'on veut, c'est assez marrant de voir que c'est toujours celle-là. Non, des gens comme... au contraire, ça c'est le problème avec des gens comme Kahneman, qui est un type... très intéressant d'ailleurs. Il y a un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, que je recommande vivement à lecture, il est très bien, en édition de poche pas cher. Amusant, il montre justement combien nos comportements sont bizarres, on peut avoir des réactions, des habitudes, etc.
C'est une remise en question de l'homo economicus.
Grosso modo, il dit, spontanément, on fait un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas forcément très rationnels. Ce qu'il appelle le Système 1, le Système 2. On fait des choses... Et ensuite, si on réfléchit, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne solution. Mais alors, pourquoi on le fait pas? Parce que ça coûte de réfléchir. Donc, et voilà. Et donc, en fait, et ça, c'est exactement contre la modélisation typique, théorique, qui dit non, les individus, c'est des gens qui ont information et qui calculent, etc. Voilà. Et ça met en l'air. Alors, maintenant, ils veulent faire de l'économie behavioriste. Je sais pas si vous voulez en parler, behavioriste après. Mais, en réalité, ça mène nulle part.
L'économie comportementale, on pourra y revenir, Agnès Labrousse.
Oui, alors moi je nuancerai un tout petit peu le propos de Bernard. Ça remet en question l'homo economicus, mais alors l'économie expérimentale est très intéressante. Hein, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Le problème, c'est que l'économie expérimentale telle qu'elle est pratiquée de manière dominante aujourd'hui ne propose qu'une remise en question très très partielle de l'homo economicus. C'est-à-dire que celle qui est publiée dans les bonnes revues va expliquer qu'il y a des biais au comportement rationnel. Donc c'est comme pour la concurrence imparfaite. Il y a des biais par rapport à la concurrence parfaite. Donc on conserve l'homo economicus comme modèle de référence auquel on va ajouter une multitude de biais. Néanmoins, il y a des travaux d'économie expérimentale qu'on peut qualifier d'hétérodoxes qui ne vont pas être publiés dans les revues les mieux cotées et qui, eux, proposent des modèles complètement alternatifs de rationalité.
Oui, ce que vous dites, c'est que cette promesse de rigueur des expérimentations, elle constitue quand même un renouveau pour les sciences sociales, et on peut notamment citer les travaux d'Esther Duflo pour analyser l'impact du microcrédit sur une population.
Alors oui, alors on peut prendre donc là aussi, hein, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour de l'empirie, hein, en économie après les fameuses théories de l'équilibre général dont il était question auparavant. Néanmoins, là aussi, les résultats des expérimentations, ils demandent un cadre interprétatif, et il y a plusieurs interprétations possibles, et les interprétations sont complexes, se coublient un peu des auteurs comme Esther Duflo. Alors on peut prendre un exemple, une expérimentation au Maroc. L'expérimentation à la Mala, qui est une expérimentation de microcrédit avec un article qui a été notamment co-signé par Esther Duflo. Et en fait, donc ça, c'était une expérimentation qui était... Alors, je ne sais pas si j'ai une petite minute pour essayer de donner un exemple concret. C'était une expérimentation qui était financée par l'Agence française de développement. Et ils expérimentaient aussi les expérimentations en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont mis aussi une équipe de socio-économistes pour voir ce qui se passait à côté de ça sur le terrain. Et donc, l'idée de cette expérimentation de microcrédit, Alamana est un organisme de microcrédit qui était implanté en zone urbaine au Maroc, et ils ont voulu étendre leur activité aux zones rurales. Alors, les résultats de l'expérimentation ont été très décevants parce que, en fait, il y a eu un très faible recours au microcrédit, toute une série aussi de problèmes statistiques, d'attrition, etc. Mais l'interprétation était complexe. Par exemple, un petit détail, au début, dans le projet, ils avaient oublié de tenir compte du calendrier agraire qui est essentiel dans les zones rurales pour les remboursements. Donc, est-ce que c'est le microcrédit qui marche pas ou est-ce que c'est parce que c'est un calendrier de remboursement qui est mal conçu? Et enfin, par ailleurs, pour compléter un petit peu, pour montrer la complexité des choses et de ce qu'est une science au quotidien, il y a des collègues qui ont fait une réplication des résultats de cette expérimentation et qui aboutissent à des résultats complètement différents, qui s'aperçoivent que les données ont été très très mal traitées. Et donc ça va être publié cette année.
Alors, on voit toute la complexité qu'il y a à donner ce titre de science à l'économie. Alors, il y a une définition de la science que je vous emprunte et que vous empruntez vous-même, Bernard Guérien, à André Lalande dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie. Je vous lis cette définition. La science est donc définie comme un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui leur sont communs, mais des relations objectif qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Alors, est-ce que, selon cette définition et cette façon de considérer l'économie, est-ce que ce n'est pas difficile, justement, de lui apposer ce nom de science, Bernard Guérien ?
Oui, non, évidemment, on est très, très loin de ça, n'est-ce pas ?
Les conclusions concordantes, et notamment les méthodes de vérification, c'est ça qui pose question.
Comme je l'ai dit depuis le début, on cherche d'abord des régularités. Alors, par exemple, ces expériences-là, microcrédit, il y a l'histoire des moustiques et le moustiquaire et le paludisme en Afrique, les trucs à la Duflo, là. Bon, on va faire des... Alors, ce sont toujours des problèmes locaux, si on peut dire, spécifiques. Il faut faire très attention des conditions qui... Et en fait, ce sont des régularités. Peut-être si ça marche, disons que ça marche très bien. Local. Et après, si on veut extrapoler à un autre endroit, ça marche plus.
C'est pour ça que vous refusez de parler de loi en économie. On parle pourtant de la loi de l'offre et la demande, on parle de la loi de l'échange. Mais justement, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que ce terme de loi ne vous paraît pas légitime?
Non, parce que l'offre et la demande, c'est une règle. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si, ce que tout le monde connaît, hein, n'est-ce pas, que si un bien... est peu disponible, alors, et si l'offre d'un bien est faible, si la demande est forte, le prix va augmenter, etc. Vous voyez, les si, et c'est une règle informelle de combien ça va augmenter, n'est-ce pas? On ne sait pas. Personne, même aucun économiste va dire que ça, c'est une loi, n'est-ce pas? C'est le mot loi utilisé dans un sens très, très particulier, n'est-ce pas? Bon.
Et donc, en même temps, on continue au quotidien à entendre parler de loi d'offre et de la demande.
Non, mais c'est le café et commerce.
Je voudrais entendre Anis Labrousse sur cette question.
C'est d'autant plus le café du commerce que, par exemple, il existe des catégories de biens comme les biens de première nécessité ou les biens blaine, plutôt des biens de luxe pour lesquels cette loi n'est absolument pas vérifiée. Et puis ça, en fait, ça dépend aussi d'habitude de consommation, etc. Donc en fait, il y a toute une série de conditions qui ne sont pas vérifiées en tout temps et en tout lieu. Donc c'est vraiment très très problématique de qualifier ça de loi. Mais il y a quand même des économistes qui croient dur comme fer.
Non, le problème c'est qu'on ne peut pas la formuler dans le sens, il n'y a pas une loi. C'est une formule, c'est une relation précise, c'est ça une loi. C'est pas une espèce de petit machin de dire ouais, ça varie dans tel truc, il se passe. Non, c'est pas ça du tout. Une loi, au sens, c'est quelque chose, une relation précise. Il n'y a pas de relation précise, il y a un truc un peu flou, n'est-ce pas? Voilà.
Alors justement, je vous propose d'écouter Benjamin Coriat, professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés.
Il faut bien voir deux choses. Utiliser des données empiriques, les traiter de différentes manières, à travers des modèles, à travers la recherche de corrélations, à travers éventuellement des expérimentations, fait entièrement partie de la méthode scientifique. Et bien entendu, nous y référons simplement. Ce que nous critiquons, c'est pas ça. Ce que nous critiquons, c'est, alors, la science économique doit faire sa révolution copernicienne. Oui, c'est-à-dire elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses, en tout cas le mainstream, doit abandonner un certain nombre d'hypothèses constitutives. La science économique est aujourd'hui une science axiomatique. C'est pas du tout une science expérimentale. Donc, elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses sur le comportement des consommateurs, sur le caractère autorégulateur des marchés, etc., etc.
La science économique est une science qui s'appuie sur des axiomes, des vérités qui n'ont pas été démontrées. Et ce sont ces axiomes que Benjamin Coriat appelle aujourd'hui à abandonner, Agnès Labrousse.
Oui, 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 c'est une sage réflexion. Hein. Alors, c'est pas toute la science économique, mais c'est une grande partie de la science économique qui on part d'axiomes, hein, comme l'homo economicus. Ça va par exemple supposer qu'il y a une indépendance des préférences par rapport au contexte, que ces préférences sont stables, elles sont données d'emblée, etc. Or, justement, la psychologie et l'économie expérimentale montrent que ça n'est pas vérifié. Donc des axiomes de comportement, mais des axiomes qui portent aussi sur le contexte de l'activité économique, les conditions de la concurrence, qu'elles soient parfaites ou imparfaites. Effectivement, ces axiomes, en fait, ils sont profondément irréalistes pour la plupart d'entre eux.
Peut-être que ce qu'il faut souligner, c'est que les théoriciens de l'économie sont nécessairement influencés par leur vécu, leurs expériences, leurs relations, et cette subjectivité doit peut-être être reconnue comme telle, Agnès Labrousse.
Et oui, il faudrait être beaucoup plus prudent et beaucoup plus modeste. L'économiste a besoin d'être humble, c'est ce que soulignait André Orléans. En fait, on est tous, sans toujours en avoir conscience, hein, on est porteurs de ce que les épistémologues appellent des valeurs d'arrière-plan. Donc, on a, quand on examine un objet, on a toujours un point de vue particulier, une posture donnée qui dépend en fait de ses expériences, du contexte dans lequel on vit. Je vais vous donner peut-être un exemple qui n'a rien à voir avec l'économie, qui est celui de la primatologie des années 50-60. Cette primatologie était dominée essentiellement par des chercheurs masculins qui faisaient très bien leur travail, mais en fait, leur croyance d'arrière-plan était que c'était les mâles dominants qui structuraient les sociétés primates. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en tête le modèle occidental, familial occidental dominant de l'époque, ce qu'on appelle le male breadwinner, l'homme pourvoyeur de ressources. Et donc,
on a identifié que c'était des biais, mais bien plus tard.
Mais bien plus tard, et on l'a authentifié. On s'en est aperçu notamment parce que des femmes sont arrivées dans le champ de la primatologie. Elles étaient porteuses d'expériences différentes, d'autres valeurs. Et donc, elles se sont aperçues que, par exemple, il y avait des mâles périphériques qui faisaient ami-ami avec les femelles, ce qui, sur le plan reproductif, avait de bons résultats, ce qu'on n'avait pas observé. Ces autres collègues qui faisaient bien leur travail, hein, encore une fois, mais qui n'avaient pas les mêmes valeurs d'arrière-plan.
Et alors, voilà. Face à ces écueils, face à ces biais, quelles solutions s'offrent aux économistes ? Comment est-ce qu'on peut continuer à construire des théories en économie ? Écoutons la réponse de l'économiste Daniel Cohen. Il était l'invité de la conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture le 16 septembre 2017.
Je crois que les économistes raisonnent de manière hypothético-déductive. Mmh. C'est-à-dire qu'ils voient une situation, ils font un modèle, et ce modèle, c'est presque une photographie théorique de ce qu'ils observent. Et donc le modèle ne va pas beaucoup plus loin que ce qu'ils observent à un moment donné. Mais à partir de ce modèle, par la pensée, ils font des simulations intellectuelles. Et je crois que les économistes, de ce point de vue-là, ne sont pas des scientifiques au sens où ils chercheraient une loi universelle. Ils savent que les lois du monde sont parfaitement changeables, mouvantes, qu'il n'y a pas de règles fixes. Ils doivent avoir l'humilité de reconnaître que leurs modèles sont construits à partir d'une situation donnée, que ça leur donne un certain pouvoir prédictif, mais très très limité, qu'ils doivent constamment accepter l'épreuve des faits. Et quand on leur demande un jugement sur qu'est-ce qu'il faut faire ici aujourd'hui, ils doivent, comme un médecin qui s'opère à opérer, dire « voilà, au mieux de mes connaissances, il faudrait faire ceci, mais ça n'est pas un résultat définitif, parce que il y a des ruptures qui font que les règles qui valaient avant ne valaient pas ».
Les économistes raisonnent de manière hypothético-déductive, nous dit Daniel Cohen. Bernard Guérien, ils recherchent des tendances, finalement, plutôt que des lois universelles ?
Mais non, bon.
L'idée, c'est de rechercher des tendances. C'est ce que nous dit Daniel Cohen. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Non, mais oui. Non, bon. Entre rechercher une régularité, une tendance. Après, vous avez plusieurs tendances et puis il faut les mettre ensemble. Ça, c'est pas un modèle, c'est pas une théorie. Une théorie, c'est un ensemble global, n'est-ce pas ? Essayez de voir comment les diverses tendances se combinent. C'est là la difficulté. Alors, sur quelle base ? moi, il y a quelque chose auquel on ne peut pas échapper en économie, c'est que les économies sont plongées dans leur société et ils ont un mot qu'on n'a pas prononcé, mais ils ont une idéologie, c'est-à-dire des croyances profondes. Mmh. Et ça, ça joue au départ. Même dans les sciences, en biologie par exemple, c'est que c'est le Darwinisme, il y a idéologie, il y a des grandes batailles idéologiques, etc. Mais quelque part, les faits tranchent. Mmh. En économie, le problème, c'est que comme on peut pas faire d'expérience, on peut tout isoler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se construire un modèle où on va choisir les hypothèses, les variables qui nous intéressent pour arriver au résultat auquel on veut. Mmh. Hein, si vous prenez l'expérience historique du monétarisme, Friedman, etc. Alors, en réalité, alors je sais pas si on va parler des questions de pouvoir, justement, des gouvernants. Qu'est-ce qui se passe? Les prix Nobel d'économie, vous avez des types qui ont des discours complètement différents, opposés. C'est extraordinaire. Le prix Nobel sur la finance qui a été donné à un type qui s'appelle Fama, qui est un ultra fanatique du libéralisme, tout ça, et à Schiller, qui est son adversaire depuis toujours. C'est aberrant dans une science qu'on donne des types qui arrivent à des conclusions différentes et qui préconisent des choses totalement différentes.
Aberrant ou stimulant?
Non, c'est aberrant d'un point de vue scientifique. Un truc, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas stimulant du tout. Là.
Bah alors, on va voir avec Agnès Labrousse, mais que cette idée d'un dissensus peut aussi permettre de faire avancer un certain nombre de théories.
Non, parce qu'ils arrivent à des conclusions opposées et qui sont incompatibles. N'est-ce pas? On peut pas dire qu'un truc, il est noir et l'autre, il est blanc. Alors, ce qu'ont fait les Nobel, comme c'était après la crise, d'abord, ils voulaient donner le prix au premier, là. Mais comme il y a eu la crise, pas de bol. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont quand même donné, mais ils ont donné à l'autre pour compenser. D'accord? Bon. Mais ça, c'est typiquement parce que les deux, au départ, viennent d'horizons différents, d'idéologies différentes et ils construisent leur modèle en fonction de ses a priori.
Alors, on va faire réagir Agnès Labrousse, notamment au propos de Daniel Cohen qu'on a entendu.
Oui, je voudrais revenir sur cette idée qu'il y a un modèle hypothético-déductif qui caractériserait toute l'économie. C'est vrai d'une grande partie de l'économie dominante. Ce n'est pas vrai de certaines portions de cette économie mainstream, et c'est encore moins vrai de courants dits hétérodoxes, dont une bonne partie résonne en fait en terme. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très connu, on part d'un processus dit abductif, on part de phénomènes saillants, surprenants par rapport à ses croyances d'arrière-plan, par rapport aux théories, phénomènes nouveaux qu'on va chercher à expliquer et on va essayer de proposer des théories, on va compléter ça par de la déduction et de l'induction. Alors ça, ce sont des traditions comme les institutionnalistes américains qui ont développé ça, ou la théorie française de la régulation, je pourrais vous donner des exemples de ce raisonnement là, ou encore Elinor Ostrom dans le développement de sa théorie des communs.
Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la crise de 2008 a justement beaucoup contribué au discrédit des économistes. Attends une seconde, je vous donne la parole dans un instant, Bernard Carrière, mais d'abord, je voudrais qu'on entende Patrick Artus qui a été reçu le 28 août dernier à la grande table d'Olivia Gesbert sur France Culture.
Je me suis complètement trompé, donc je l'ai écrit plusieurs fois depuis, mais à nouveau, on était dans des chocs extrêmement faibles. Donc le scénario le plus vraisemblable quand même, c'était pas un scénario de crise mondiale violente. On avait quelques centaines de milliards de dollars de pertes pour les banques américaines. Ça n'aurait jamais dû déclencher une crise de cette taille. Donc une fois que ces pertes étaient absorbées par les banques, on n'aurait pas dû avoir cette crise. Donc ce qu'il faut se demander à nouveau, le scénario le plus vraisemblable était vraiment le scénario où la crise s'arrêtait.
La crise de 2008, elle est emblématique selon vous, Bernard Guérien, de l'aveuglement que peut entraîner justement la croyance dans certains modèles économiques?
Non, je ne pense pas que le modèle économique joue un grand rôle dans la crise.
Vous ne parleriez pas d'un aveuglement?
Pardon?
Vous ne parleriez pas d'un aveuglement?
Non, attendez. Les gens, les gouvernements, les gens, l'économie, ceux qui sont au pouvoir, les administrations, leur modèle des économistes, ils les ont là, mais eux, ils utilisent leur flair, leur pratique, ils n'en ont rien à faire, grosso modo, de ces modèles.
Bon, en attendant, personne n'a su prédire la crise.
Hein?
En attendant, personne n'a su prédire la crise.
Bien sûr, non, mais les crises, mais c'est pour ça qu'il y a une crise, c'est imprévisible. C'est justement, c'est un peu le problème. À propos de Patrick Artus, je vous signale que moi, je me souviens, en 2010, il avait prédit que l'euro serait à 2 dollars. il serait monté à 2. C'était juste avant la crise grecque. Et M. Arthus avait prédit, l'euro va être à 2 dollars. Boum. Après, il y a eu la crise grecque. Alors
ça
là, c'est
la
fini,
difficulté
si
des prévisions.
Mais ce que, il faut revenir à ça, c'est justement, c'est les gouvernants, ils utilisent les économistes un petit peu pour se justifier, mais a posteriori, à peu près, etc.
Mmh. Agnès Labrousse.
Alors, je trouve cette idée de Bernard un petit peu excessive, parce que je pense qu'il faut se garder de deux écueils quand on s'intéresse à l'influence des économistes sur les décisionnaires. Le premier écueil, c'est de penser que les politiques économiques sont la transcription directe de ce que racontent les économistes. Ça effectivement, c'est erroné. Néanmoins, il y a des influences qui restent importantes et je pense que l'économie dominante a quand même très largement contribué à un aveuglement généralisé. Et pour ce qui est des prévisions, alors on peut pas dire à quelle heure et quel jour une crise va avoir lieu. Ça, c'est totalement impossible. En revanche, on peut dessiner les mécanismes qui font que il y aura probablement un jour une crise. Et ce qu'on fait, toute une série d'économistes hétérodoxes, hein, comme Plion, comme Steve Keen, comme André Orléon, ou encore Frédéric Lordon. Donc, le problème, c'est que quand il y a un pseudo-consensus au sein des économistes et qu'on n'écoute pas assez les voix dissonantes.
Alors vous citez Dominique Plion, justement, donc président du conseil scientifique d'Attac France. Pour lui, la crise de 2008 a au moins eu le mérite d'entraîner une remise en question de certaines théories économiques.
Bon, je pense qu'on a progressé grâce à la crise. Cette crise a ceci de bon qu'elle a obligé les uns et les autres à clarifier leurs analyses, leurs pensées. Je pense que le débat a permis de montrer que la doctrine dominante est en crise. Comment est-ce qu'elle s'exprime-t-elle? C'est ce que les économistes appellent la théorie de l'efficience des marchés financiers. Les marchés financiers seraient capables de s'autoréguler, de converger vers l'équilibre, et que finalement, il n'y aurait pas besoin de les réguler, que les interventions des États ou des banques centrales seraient sans intérêt. La crise a démontré le contraire. Et donc, ça a permis de clarifier le fait que la finance est fondamentalement instable, que la finance doit être régulée, ce qui est l'idée ou sont les idées que nous défendons depuis longtemps. Sauf que malheureusement, je constate en tant qu'universitaire que dans les universités, dans les cénacles où l'on parle de théorie financière, la théorie de l'efficience continue d'être dominante. Et d'ailleurs, une illustration incroyable nous a été fournie par l'attribution des derniers prix Nobel d'économie à deux économistes qui sont américains, qui sont Eugene Fama et Robert Shiller. Monsieur Eugene Fama est le père de la théorie de l'efficience. Et donc, il est quand même incroyable de voir qu'on a couronné ce monsieur, alors même que beaucoup disent aujourd'hui que cette théorie est dépassée.
Fama et Schiller, dont on parle beaucoup aujourd'hui, théorie...
Mais qui sont opposés, mais il ne le dit pas.
La théorie de l'efficience des marchés a été remise en question, mais le chemin reste long selon Dominique Plion. Vous partagez cet avis, Agnès Labrousse?
Ah oui, tout à fait. Hein. J'irais même jusqu'à dire que ce qui s'est produit, au lieu de dire les économistes qui avaient montré que ce capitalisme financiarisé, très peu régulé, était porteur d'instabilité fondamentale, au lieu de dire c'est eux qui avaient raison et donc on doit aussi enseigner leur théorie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reconfiguration interne aux théories mainstream. Donc, il y a eu un discrédit d'une certaine macroéconomie. Mmh. Et il y a eu la montée en puissance, justement, de ce dont on parlait auparavant, l'économie expérimentale, par exemple, et d'autres courants économiques. Mais ces courants-là d'économie expérimentale, ils apportent très très peu à la compréhension de la crise qui s'est déclenchée en 2007-2008.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Diplôme d'économie, petites économies, études d'économie. Institut d'économie, salon de l'économie, crise de l'économie. Économique, science économique, statistique économique. économique, situation économique, données économiques. De l'économie, histoire de l'économie, faculté d'économie, tableau d'économie, labo d'économie, bureau d'économie.
Économie de Thierry Stremler. Nous sommes toujours avec Agnès Labrousse et Bernard Guérien et nous parlons des débats autour de la discipline économique comme science. Un débat qui oppose les économistes dits orthodoxes et les hétérodoxes. Écoutons justement le point de vue de Bruno Tinel, maître de conférence à l'Université Paris 1 et membre du collectif des économistes atterrés sur cette ligne de fracture dans la science économique.
Il y a une dimension qui relève de la religion, et parce que finalement, l'emploi de ce terme, ça renvoie au fond à une forme de sectarisme qui s'exprime dans la discipline, puisque finalement, ce qui est orthodoxe, c'est ce qui s'impose comme le seul jugement vrai. Donc si au fond, on n'adhère pas au seul jugement vrai, c'est qu'on est hétérodoxe. Mais donc c'est bien finalement, quand au bout d'un moment, on se heurte à une forme de sectarisme parce qu'on n'adhère pas à la théorie qu'on finit par nommer orthodoxe, qu'au fond, on est obligé de constater ce clivage entre orthodoxe et hétérodoxie. Donc finalement, ce qui définit l'orthodoxie, c'est qu'elle refuse elle-même de se définir comme orthodoxie. Et forcément, justement, il n'y a qu'un hétérodoxe qui est capable d'identifier l'orthodoxie, puisque l'orthodoxie, par définition, elle se veut hégémonique et copain avec tous. Elle est capable de parler de tout.
Voilà un extrait d'un entretien hors série du site Arrêt sur image de Daniel Schneiderman. Alors que vous inspire ces propos de Bruno Tinel, la distinction entre orthodoxe et hétérodoxe et le choix de ces adjectifs vous paraissent pertinents, Agnès Labrousse?
Oui, ils sont pertinents. Alors, c'est pas Bruno Tinel qui les a inventés, c'est le grand économiste Keynes qui était frappé par le caractère dogmatique d'une grande partie de l'économie de son temps. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est presque encore plus le cas. Et donc, j'adhère très, 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 très largement à ce que vient de dire Bruno Tinel.
Les tensions entre les uns et les autres apparaissent notamment au sujet de la présence dans les médias ou la question des postes. À l'université, les hétérodoxes dénonçant un manque de pluralisme dans la discipline économique, et c'est aussi le sous-titre de l'ouvrage auquel vous avez participé, Agnès Labrousse.
Oui. Alors, ce dont on est parti d'un constat, c'est que les courants eux-mêmes très pluriels qui constituent l'hétérodoxie n'ont, enfin, les économistes qui en font partie n'obtiennent plus, quasiment plus de postes de professeurs à l'université.
5% des professeurs d'université recrutés entre 2005 et 2011 étaient hétérodoxes.
Voilà. Et donc ça, c'est un changement profond qui commence, grosso modo, dans les années 90, même s'il y avait déjà des éléments auparavant, et qui conduit à l'extinction programmée, en fait, des courants de pensée hétérodoxes, et qui fait qu'on va plus entendre que les sons de cloche, qui sont les sons de cloche des courants dominants.
Et les économistes hétérodoxes avaient pourtant demandé en 2015 la création d'une nouvelle section au sein du Conseil national des universités, intitulée Économie et société. Et l'objectif, justement, c'était de permettre la nomination des professeurs en rupture avec la pensée économique dominante. Mais il y a eu une pression très importante des économistes orthodoxes et notamment de Jean Tirole, qui fait qu'elle n'a jamais vu le jour, ce qui nourrit peut-être ce sentiment de relégation des orthodoxes. Des hétérodoxes, pardon.
Oui, tout à fait. Cette hétérodoxie a été presque sauvée. Ça s'est joué à un fil. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation totalement dominée dans laquelle il nous est très, très difficile d'enseigner toute une série d'approches, de théories. Et donc, ça met en danger le pluralisme. Parce que quand il n'y a plus que certains courants, ça devient un dogme qui n'est plus remis en question. Et donc, ça participe de l'aveuglement rassemblement dont il était question précédemment.
Bernard Guérien, vous parleriez vous aussi d'un problème de pluralisme dans la discipline économique ?
Oui, bien sûr. Ceci étant, je serais plus nuancé dans le sens où, bon, d'abord, ce qu'il faut dire, que le mouvement qui a demandé une autre section, ils ont quand même gagné quelque chose de très important. C'est qu'avant, il y avait quelque chose qui s'appelait l'agrégation et qui était un filtre du supérieur, qui était un filtre terrible. Là, personne passait. Le gouvernement, etc., a aménagé ça et ils ont supprimé l'agrégation au supérieur, ce qui est très important parce que, justement, à ce moment-là, il y a un tas d'hétérodoxes qui ont pu passer. Ils n'ont pas passé par ce filtre central, et ça, c'est défini plus localement. Alors, il y a un filtre intermédiaire, mais quand même, il y a eu beaucoup de, disons, d'hétérodoxes, comme ça, de gens plus ouverts. Parce que, il faut bien voir aussi que, même à un niveau concret, il faut voir que les enseignants, c'est des chercheurs, mais c'est aussi des enseignants. Et dans l'université, il faut des enseignants d'un peu de tout. Et on ne peut pas avoir des clones. De types qui font tous pareil, qui font par exemple l'économie, mathématiques, machin, parce que d'abord les étudiants, ils y comprennent rien, et ils dégagent. Donc en fait, on a besoin d'avoir deux gens à côté qui parlent d'autres choses, comme ça, de l'économie, de la vie, etc. Donc en fait, là, il y a une espèce d'équilibre qui fait que maintenant, il y a beaucoup, même parmi les maîtres de conférences, etc., il y a un stock et on maintient ça en vie. Et même aux États-Unis, c'est comme ça, en Angleterre aussi, évidemment, les autres domaines, mais quand même, si vous voulez.
Pour bien comprendre, ce qu'il faut voir, c'est que ce ne sont pas les mathématiques qui permettent de différencier orthodoxe et hétérodoxe, mais finalement l'usage qu'on en fait. C'est un peu ce que disait Benjamin Coriat tout à l'heure.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout. Le critère de démarcation serait pas entre une économie littéraire et une économie mathématique. Preuve en est qu'il y a des courants comme les post-keynésiens, comme les régulationnistes, comme les évolutionnistes, qui sont des courants hétérodoxes et qui développent des modèles tout à fait complexes, qui font appel aussi à l'économétrie. Donc c'est pas ça qui va être la ligne de démarcation. Néanmoins, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ces courants hétérodoxes sont beaucoup plus prudents dans l'usage des modèles. Et puis, ils essayent d'adopter des hypothèses qui sont plus pertinentes pour comprendre le monde qui nous entoure, qui sont moins déconnectées du réel.
Alors comment justement permettre un véritable pluralisme dans la science économique ? La lauréate du prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, que vous citiez tout à l'heure, Agnès Labrousse, appelée à croiser les méthodes, seule façon pour elle de faire avancer la recherche.
Oui, et je la rejoins totalement. Alors elle a vraiment pratiqué l'interdisciplinarité à un degré presque inégalé, hein, non seulement au sein des sciences sociales, mais entre méthodes qualitatives, quantitatives, etc., et avec les sciences de la nature. Donc c'est vraiment un modèle, et elle était justement très très humble et très prudente, et elle expliquait qu'il n'existe pas de Graal méthodologique, hein, que chaque modèle a à ses limites, dont il faut être conscient, et que c'est justement par la combinaison des modèles et des méthodes qu'on peut essayer de s'approcher du réel.
Et alors, contrairement peut-être à Bernard Guérien, vous penseriez, Agnès Labrousse, que le dissensus entre les théories ou les stratégies de recherche est une bonne chose ?
Alors, un certain dissensus lié à un pluralisme des points de vue, parce qu'on, voilà, il y a différentes, ce qu'on appelle des communautés épistémiques, qui vont être porteuses de différentes méthodes, de différentes approches, de différentes valeurs. Et l'idée, c'est de s'échanger des objections. Et donc l'objectivité, c'est pas un processus individuel, c'est un processus social. C'est quand une communauté, par exemple quand un Dominique Plion va dire à un économiste partisan de l'efficience des marchés, mais regarde là, telle hypothèse, elle n'est pas du tout pertinente et il serait bien plus sage de la remplacer par telle autre, par exemple. C'est en ça qu'on peut aboutir à un certain degré d'objectivité.
Croiser les points de vue de chercheurs qui sont porteurs de différentes valeurs, comme vous nous le disiez, Bernard Guérien, c'est peut-être un moyen de contrôler les différents biais pour aller vers plus d'objectivité ?
Il faut clarifier. Par exemple, là, on a parlé tout le temps d'efficience de marché, et c'est une théorie qui n'existe pas. C'est un mot, et les gens reproduisent, on ne sait pas si on veut discuter de ça. Non, d'ailleurs, quand le prix Nobel a été donné à Fama et Schiller, ils n'ont absolument pas prononcé le mot marché efficient, alors que tout le monde, dans tous les journaux, dit c'est pour les marchés. Non, non, parce qu'ils savent que c'est une théorie qui n'existe pas. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on est en train de discuter, des choses inutiles. Et je pense qu'il y a tout un pan de l'économie dominante, là, qui est strictement à rejeter, qui n'a aucun, celle qui fait les mathématiques, la topologie genre de Breu, je pense qu'elle n'a aucun intérêt. On ne peut pas discuter avec eux, c'est un autre monde, c'est fini.
Mais on continue aussi quand même à beaucoup les entendre, Agnès Labrousse.
Oui, ah ben justement, ils ont un certain pouvoir, parce qu'ils jouent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rôle de filtre. Il faut un peu passer par... Si on veut être un bon bonbon, il faut être passé par là. Alors on a parlé de Ostrom, là, mais Ostrom, c'est la seule qu'on a donné. Et pourquoi on a donné le prix Nobel Ostrom? C'était après la crise de 2008. Exactement. Et là, on était très embêtés. Alors, on a donné le prix Nobel d'abord à Krugman, parce que Krugman, et après, on dit, on va chercher, on veut donner à femme, on peut pas. On a donné, en plus, c'est une femme. Formidable. Mais depuis, aucun autre. Hein.
Pas de remise en question pour
alors,
autant
tout le monde dit,
de la
voyez,
théorie dominante.
Ostrom, formidable, voilà. Mais,
oui, c'était ça une conjoncture très particulière,
très
post-crise.
Là.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient d'une faculté de sciences politiques. Elle a une double formation. Hein. Mais son camp de base est en sciences politiques. Alors, elle pensait que, là, justement, la séparation entre économie politique est une erreur et qu'il faut joindre les deux disciplines. Et il y a eu une avalanche de critiques injurieuses à son égard sur les blogs d'économie. Donc elle n'a pas été acceptée. On a dit c'est pas une économiste. Je pense qu'elle apporte énormément à l'économie.
Et depuis, il n'y a pas eu rien d'autre.
Il y a eu un petit séisme dans le monde de la discipline économique. Ça a été la parution de l'ouvrage de Pierre Cahuc et d'André Zilberberg, le négationnisme économique, paru il y a 2 ans. Un ouvrage qui dénonçait justement l'obscurantisme dont se rendraient coupables, selon eux, ceux qui refuse de reconnaître le caractère scientifique de ces expérimentations. On arrive presque au terme de cette émission, Agnès Labrousse, mais peut-être que ce dissensus, débat, a permis de faire ressurgir et de montrer véritablement quelles étaient les forces en présence.
Là, on est dans c'est un bel exemple de scientisme. Alors, en plus, Cahuc, lui, pratique quasiment pas l'économie expérimentale. Ça correspond d'ailleurs à, grosso modo, 5-10% de l'économie. Donc, c'est quand même très, très problématique. Et puis, c'est une rhétorique d'élimination de tout ce qui ne fait pas partie du mainstream. C'est quand même d'une violence considérable et qui n'est pas justifiée. C'est juste des arguments d'autorité. Et c'est ça le problème, en fait, de courants dominants. Ils n'ont pas à apprendre de leurs erreurs. C'est ça, c'est une des définitions du pouvoir. On n'a pas à apprendre de nos erreurs, notamment celle concernant la crise. Hein.
Des arguments d'autorité face auxquels un certain nombre d'économistes s'insurgent.
Je pense que Pierre Cahuc est un économiste du travail. Et comme par hasard, l'économie du travail, c'est là où il y a les plus grosses bagarres, n'est-ce pas? C'est pas par hasard. Bon, vous imaginez bien pourquoi. Et donc, en fait, effectivement, lui a été attaqué, l'économie du travail, c'est l'endroit où ça chauffe en économie, c'est l'économie du travail. Et bon, et lui, il réagit contre ça, parce qu'il est très attaqué,
etc. Il ne supporte pas la contradiction, il faut le dire.
Bon, c'est ça, parce qu'il était aussi très critiqué, etc. Donc, il réagit, on sent que c'est très viscéral. Ça se ramène à ce que j'ai dit, l'idéologie. Il y a une idéologie au départ, il y a des idéologies différentes, une conception différente, ce que peut être l'harmonie, le travail, etc. Et voilà, et là, c'est un choc d'idéologie, vraiment.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les logiques économiques derrière la décision du gouvernement de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mais oui, dès le début de son quinquennat, le président Macron a fait le choix de supprimer cette taxe sur le patrimoine concernant les personnes possédant une fortune supérieure à 1,3 million d'euros. La logique est simple, pour redynamiser l'économie, le président nouvellement élu entend relancer l'investissement productif. Il décide pour cela de sortir du calcul de l'ISF toutes les actions, parts et titres d'entreprise, ne conservant que les éléments de propriété immobilière, titres non productifs.
Car l'ISF aurait pour conséquence malheureuse d'entraîner le départ des plus grosses fortunes hors de France.
Oui, ces fameux piliers de l'économie qui, en quittant notre douce France, emporteraient avec armes et bagages, capital et investissements potentiels. Dans une tribune au journal Les Échos, le ministre des Finances Bruno Le Maire expliquait alors, je cite, que surtaxer le capital ne conduisait pas à plus de justice fiscale, mais à plus de départ des investisseurs et des créateurs de richesses. Autant d'argent qui ne serait donc pas investi dans l'économie et qui ne permettrait pas d'enclencher le fameux cercle vertueux de l'investissement, de la croissance et de l'emploi. Autant d'argent qui ne serait pas non plus utilisé pour financer notre bon système social. Sur le papier, donc, ces arguments semblent imparables et ceux qui continuent de se plaindre ne seraient donc que des Gaulois mal lunés qui ne comprennent pas que ces décisions ont été prises pour leur bien.
Pourtant, ces justifications économiques et pratiques sont loin de faire l'unanimité.
Absolument, elles sont même catégoriquement remises en cause par un certain nombre d'institutions, économistes ou experts des questions fiscales. à commencer par la Direction Générale des Finances Publiques, qui dépend justement du ministère de l'Économie et des Finances. Si bien sûr l'administration centrale n'émet pas d'avis politique sur la question, elle rappelle néanmoins dans un rapport que les exilés fiscaux représentent officiellement 0,2% des personnes assujetties à l'ISF. Pas exactement la grande évasion dont on nous parlait donc. D'autant que, comme nous le rappelle l'économiste Thomas Piketty, les recettes de l'ISF ont été multipliées par 4 entre 1990 et 2017. Avec la réforme du gouvernement, le manque à gagner approcherait ainsi les 3 milliards d'euros par an. La preuve que cette taxe continue d'avoir une pertinence et un intérêt au-delà des quelques centaines de contribuables qu'elle pousserait effectivement à l'exil.
Mais au-delà de ces raisonnements pratiques, c'est la philosophie même de la mesure qui est remise en cause.
Exactement, il est en effet curieux de s'échiner à supprimer une taxe pour s'assurer que les contribuables les plus riches paieront bien leur impôt en France. Mais on peut aussi s'interroger sur l'évidence selon laquelle la suppression de l'ISF aurait une incidence forcément positive sur l'ensemble de l'économie française. Elle repose en effet sur la fameuse théorie du ruissellement, jamais explicitement démontrée, mais toujours présente dans l'esprit de nos dirigeants. Bien que celle-ci ne relève d'aucun travail universitaire ni de la moindre démonstration économique, l'idée selon laquelle l'enrichissement des plus riches contribuerait à l'enrichissement de tous continue de légitimer les politiques économiques mises en œuvre depuis plus de 30 ans.
On peut donc y voir, Arjuna, une forme d'émancipation du pouvoir politique, des simples logiques économiques.
Exactement, nous parlions au cours de cette émission du poids qu'a pris l'économie comme science d'autorité dans les différentes sphères de la société. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette théorie n'est fondée sur aucun élément pratique, des travaux universitaires ayant même formellement démontré l'inverse. Mais si personne ne se revendique explicitement de cette théorie du ruissellement, c'est pourtant bien elle qui est à l'œuvre lorsque le gouvernement décide de favoriser les premiers de cordée pour le bien de toute la communauté.
Fire, just to taste the truth. So you're gonna die, so are you. We chase the light, cause we need the moon. This is our science, we got nothing to prove. Tell me where you're going with that knife in your hand. What you're thinking, boy? What you got planned? See, I don't trust your smile. I know your daddy lets you run wild as the wind. I saw you touch her eyelids, and I can see you want so clearly to kiss her lips.
I got a friend who walks the strip with a gun on his hip. His reason is this: if people caught a glimpse, they won't be talking shit. And he can rest his heavy fist. He got hands to take a teeth. He'd only call us to coax him from lips. To you, this is as crazy as it gets. To the man with the bruises on hands, it only makes sense. Yeah, and that's the way that he is. And that's the way that I live. I wasn't born in a boxcar. When I die, bury me with crossed arms underneath the tree up in the backyard. Slip the coin in my pocket, yeah, it's a lost art. Living what you're giving till it finally stops. Hearts, when us good guys die, those are survivors, spend a solid line to make us look real hard. Cause we ain't tough, tell them Steph.
This is you, never comes up.
This is for those who can't take a hint. Find 100 neighbors, ask if they could change your life. And what would they do different? Would it be little shifts? Or would it be some hidden dream from the bitter deep that no one even knows exists? To me it makes sense, you can waste your time. Toss some blades of grass to the wind that you can swing fists. And if it sinks ships, bury me at sea with my arms crossed and a smile up on my pink lips. Tell me this, put up your fingertips if you're living your life exactly the way that you wished, yeah. And for the rest of us with our hands on our hips, our work is never done, we are Sisyphus.
Tell me where you're going with that knife in your hand, yeah. Tell me what you're thinking, boy.
This is our science, d'Astronautolis. Merci beaucoup Agnès Labrousse et Bernard Kerrien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle l'ouvrage auquel vous avez participé, Agnès Labrousse, « À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?» publié au Lien qui libère. Et votre ouvrage, Bernard Kerrien, « L'illusion économique » publié aux éditions Omniscience. On mettra toutes les références sur le site. On se retrouve demain pour une émission d'actualité consacrée au logement. Alors que le MEDEF et Action Logement ont lancé un plan inédit de 9 milliards d'euros qui peut résoudre aujourd'hui la crise du logement, on en parle demain à partir de 14h. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.